Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite et la fin de ce court roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants, presque un roman policier. Ferragus continua. « Et que deviennent ceux qui s'avisent de toucher à ton bonheur, ma fille, ou de se mettre entre nous ? N'as-tu donc jamais reconnu la seconde providence qui veille sur toi ? Tu n'essaies pas que 12 hommes pleins de force et d'intelligence forment un cortège autour de ton amour et de ta vie, prêts à tout pour notre conservation. Est-ce un père qui risquait la mort en allant te voir aux promenades ou en venant t'admirer dans ton petit lit chez ta mère pendant la nuit ? Est-ce le père auquel un souvenir de tes caresses d'enfant a seul donné la force de vivre au moment où un homme d'honneur devait se tuer pour échapper à l'infamie? Est-ce moi, enfin, moi, qui ne respire que par ta bouche, moi, qui ne vois que par tes yeux, moi, qui ne sens que par ton cœur, est-ce moi, qui ne saurais pas défendre avec des ongles de lion, avec l'âme d'un père, mon seul bien, ma vie, ma fille? Mais depuis la mort de cet ange qui fut ta mère, je n'ai rêvé qu'à une seule chose, au bonheur de t'avouer pour ma fille, de te serrer dans mes bras à la face du ciel et de la terre, à tuer le forçat, à te donner un père, à pouvoir presser sans honte la main de ton mari, à vivre sans crainte dans vos cœurs, à dire à tout le monde en te voyant « Voilà mon enfant !» Enfin, à être un père à mon aise. Mon père ! Et Clémence prit les mains de Ferragus et les baisa. Allons, encore un peu de courage, ma Clémence. Gardons le fatal secret jusqu'au bout. Ce n'est pas un homme ordinaire que Jules. Mais cependant, savons-nous si son grand caractère et son extrême amour ne déterminerait pas une sorte de mésestime pour la fille d'un... « Oh ! » s'écria Clémence. « Vous avez lu dans le cœur de votre enfant. Je n'ai pas d'autre peur, » ajouta-t-elle d'un ton déchirant. « C'est une pensée qui me glace. Mais mon père, songez que je lui ai promis la vérité dans 2 heures. » « Eh bien, ma fille, dis-lui qu'il aille à l'ambassade du Portugal voir le comte de Funcal, ton père, j'y serai. » Et monsieur de Maulincourt, qui lui a parlé de Ferragus, « Mon Dieu, mon père, trompé, trompé, quel supplice !»« À qui le dis-tu ? » ?»« Mais encore quelques jours et il n'existera pas un homme qui puisse me démentir. » D'ailleurs, monsieur de Maulincourt doit être hors d'état de se souvenir. « Voyons, folle, sèche tes larmes et songe. » En ce moment, un cri terrible retentit dans la chambre où était M. Jules Desmarets. « Ma fille, ma pauvre fille !» Cette clameur passa par la légère ouverture pratiquée au-dessus de l'armoire et frappa de terreur Ferragus et Madame Jules. « Va voir ce que c'est, Clémence !» Clémence descendit avec rapidité le petit escalier, trouva toute grande ouverte la porte de l'appartement de Madame Gruget, entendit les cris qui retentissaient dans l'étage supérieur, monta l'escalier, vint, attiré par le bruit des sanglots, jusque dans la chambre fatale, où, avant d'entrer, ces mots parvinrent à son oreille. « C'est vous, monsieur, avec vos imaginations, qui êtes la cause de sa mort !» « Taisez-vous, misérable !» disait Jules en mettant son mouchoir sur la bouche de la veuve Cruget qui s'écria « À l'assassin ! Au secours !» En ce moment, Clémence entra, vit son mari, poussa un cri et s'enfuit. Jules disparut en se sauvant comme un homme qui aurait commis un crime. Ses jambes tremblaient. Son cœur élargi recevait des flots de sang plus chauds, plus copieux qu'en aucun autre moment de sa vie et les renvoyait avec une force inaccoutumée. Les idées les plus contradictoires se combattaient dans son esprit et cependant une pensée les dominait toutes. Il n'avait pas été loyal avec la personne qu'il aimait le plus. Et il lui était impossible de transiger avec sa conscience, dont la voix, grossissant en raison du forfait, correspondait au cri intime de sa passion pendant les plus cruelles heures de doute qui l'avaient agité précédemment. Il resta durant une grande partie de la journée errant dans Paris et n'osant pas rentrer chez lui. Cet homme probe tremblait de rencontrer le front irréprochable de cette femme méconnue. Les crimes sont en raison de la pureté des consciences, et le fait qui, pour tel cœur, est à peine une faute dans la vie, prend les proportions d'un crime pour certaines âmes candides. Le mot de candeur n'a-t-il pas en effet une céleste portée ? Et la plus légère souillure empreinte au blanc vêtement d'une vierge n'en fait-elle pas quelque chose d'ignoble autant que le sont les haillons d'un mendiant ? Entre ces deux choses, la seule différence n'est que celle du malheur à la faute. Dieu ne mesure jamais le repentir. Il ne le scinde pas. Et il en faut autant pour effacer une tache que pour lui faire oublier toute une vie. Ces réflexions pesaient de tout leur poids sur Jules, car les passions ne pardonnent pas plus que les lois humaines, et elles résonnent plus juste. Ne s'appuient-elles pas sur une conscience à elle, infaillible, comme l'est un instinct ? Désespéré, Jules rentra chez lui, pâle, écrasé sous le sentiment de ses torts. Mais exprimant malgré lui la joie que lui causait l'innocence de sa femme. Il entra chez elle tout palpitant. Il la vit couchée. Elle avait la fièvre. Il vint s'asseoir près du lit, lui prit la main, la baisa, la couvrit de ses larmes. « Cher ange, lui dit-il quand ils furent seuls, c'est du repentir ?» « Et de quoi ? » reprit-elle. En disant cette parole, elle inclina la tête sur son oreiller, ferma les yeux et resta immobile, gardant le secret de ses souffrances pour ne pas effrayer son mari. Délicatesse de mère, délicatesse d'ange. C'était toute la femme dans un mot. Le silence dura longtemps. Jules, croyant Clémence endormie, alla questionner Joséphine sur l'état de sa maîtresse. « Madame est rentrée à demi-morte, monsieur. Nous sommes allés chercher monsieur Audry. »« Est-il venu ? Qu'a-t-il dit ? Rien, monsieur. Il n'a pas paru content à ordonner de ne laisser personne auprès de madame, excepté la garde, et il a dit qu'il reviendrait pendant la soirée. » Monsieur Jules rentra doucement chez sa femme, se mit dans un fauteuil et resta devant le lit immobile, les yeux attachés sur les yeux de Clémence. Quand elle soulevait ses paupières, elle le voyait aussitôt et il s'échappait d'entre ses cils douloureux un regard tendre, plein de passion, exempt de reproches et d'amertume, un regard qui tombait comme un trait de feu sur le cœur de ce mari noblement absous et toujours aimé par cette créature qu'il tuait. La mort était entre eux un pressentiment qui les frappait également. Leurs regards s'unissaient dans une même angoisse, comme leurs cœurs s'unissaient jadis dans un même amour. Également senti, également partagé. Point de question, mais d'horrible certitude. Chez la femme, générosité parfaite. Chez le mari, remords affreux. Puis, dans les deux âmes, une même vision du dénouement, un même sentiment de la fatalité. Il y eut un moment où, croyant sa femme endormie, Jules la baisa doucement au front et dit, après l'avoir longtemps contemplée, « Mon Dieu, laisse-moi cet ange encore assez de temps pour que je m'absolve moi-même de mes torts par une longue adoration. Fille, elle est sublime. Femme, quel mot pourrait la qualifier ?» Clémence leva les yeux. Il s'était plein de larmes. « Tu me fais mal, » dit-elle d'un son de voix faible. La soirée était avancée. Le docteur Audry vint et pria le mari de se retirer pendant sa visite. Quand il sortit, Jules ne lui fit pas une seule question. Il n'eut besoin que d'un geste. Appelez en consultation ceux de mes confrères en qui vous aurez le plus de confiance. Je puis avoir tort. Mais docteur, dites-moi la vérité. Je suis homme, je saurai l'entendre. Et j'ai d'ailleurs le plus grand intérêt à la connaître pour régler certains comptes. Madame Jules est frappée à mort, répondit le médecin. Il y a une maladie morale qui a fait des progrès et qui complique sa situation physique déjà si dangereuse, mais rendue encore plus grave par des imprudences. Se lever pieds nus la nuit, sortir, quand je l'avais défendu, sortir hier à pied, aujourd'hui en voiture, elle a voulu se tuer. Cependant, mon arrêt n'est pas irrévocable. Il y a de la jeunesse une force nerveuse étonnante. Il faudrait risquer le tout pour le tout par quelque réactif violent. Mais je ne prendrai jamais sur moi de l'ordonner. Je ne le conseillerai même pas. Et en consultation, je m'opposerai à son emploi. Jules rentra. Pendant 11 jours et 11 nuits, il resta près du lit de sa femme, ne prenant le sommeil que pendant le jour, la tête appuyée sur le pied de ce lit. Jamais aucun homme ne poussa plus loin que Jules la jalousie des soins et l'ambition du dévouement. Il ne souffrait pas que l'on rendit le plus léger service à sa femme. Il lui tenait toujours la main et semblait ainsi vouloir lui communiquer de la vie. Il y eut des incertitudes, de fausses joies, de bonnes journées, un mieux, des crises. Enfin, les horribles nutations de la mort qui hésite, qui balance, mais qui frappe. Madame Jules trouvait toujours la force de sourire à son mari. Elle le plaignait, sachant que bientôt il serait seul. C'était une double agonie, celle de la vie, celle de l'amour. Mais la vie s'en allait faible et l'amour allait grandissant. Il y eut une nuit affreuse, celle où Clémence éprouva ce délire qui précède toujours la mort chez les créatures jeunes. Elle parla de son amour heureux. Elle parla de son père. Elle raconta les révélations de sa mère au lit de mort et les obligations qu'elle lui avait imposées. Elle se débattait, non pas avec la vie, mais avec sa passion qu'elle ne voulait pas quitter. « Faites, mon Dieu, dit-elle, qu'il ne sache pas que je voudrais le voir mourir avec moi. »
Rue de la Huchette, y a des paumés, des voyageurs qui bouffent la moitié d'une pizza avant de repartir pour ailleurs. Avant de repartir pour ailleurs. Brûle-l'Échelle. Il y a du vieux jazz, du New Orleans, des saxophones qui se refringuent en afghan et en paire de jeans, en afghan et en paire de jeans. Rue de la Huchette, il y a du ciné et de la guimauve. Rue de la Huchette, des voleurs de crêpes qui se sauvent. Rue de la Huchette, il y a des mendiants, des affamés. Tapas sans balles, une cigarette, ensemble on avale la fumée. Ensemble on avale la fumée. Rue de la Huchette, il y a Paris et un peu de pluie, du goudron sur des vieux pavés où traînent des rêves infinis, où traînent des rêves infinis.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Dernière lecture de Ferragus, chef des dévorants, de Honoré de Balzac. Jules voulut être seul pour lire les dernières pensées de cette femme que le monde avait admirée et qui avait passé comme une fleur. Mon bien-aimé, ceci est mon testament. Pourquoi ne ferait-on pas des testaments pour les trésors du cœur comme pour les autres biens ? Mon amour, n'était-ce pas tout mon bien ? Je veux ici ne m'occuper que de mon amour. Il fut toute la fortune de ta Clémence et tout ce qu'elle peut te laisser en mourant. Jules, je suis encore aimée. Je meurs heureuse. Les médecins expliquent ma mort à leur manière. Moi seule en connais la véritable cause. Je te la dirai, quelque peine qu'elle puisse te faire. Je ne voudrais pas emporter dans un cœur tout à toi quelque secret qui ne te fût pas dit. Alors que je meurs, victime d'une discrétion nécessaire. Jules, j'ai été nourri, élevé dans la plus profonde solitude, loin des vices et des mensonges du monde, par l'aimable femme que tu as connue. La société rendait justice à ces qualités de convention par lesquelles une femme plaît à la société. Mais moi, j'ai secrètement joui d'une âme céleste et j'ai pu chérir la mère qui faisait de mon enfance une joie sans amertume, en sachant bien pourquoi je la chérissais. N'était-ce pas aimé doublement ? Oui, je l'aimais. Je la craignais, je la respectais. Et rien ne me pesait au cœur, ni le respect, ni la crainte. J'étais tout pour elle, elle était tout pour moi. Pendant 19 années, pleinement heureuse, insouciante, mon âme solitaire au milieu du monde qui grandait autour de moi n'a réfléchi que la plus pure image, celle de ma mère, et mon cœur n'a battu que par elle ou pour elle. J'étais scrupuleusement pieuse et me plaisais à demeurer pure devant Dieu. Ma mère cultivait en moi tous les sentiments nobles et fiers. Ah, j'ai plaisir à te l'avouer, Jules. Je sais maintenant que j'ai été jeune fille, que je suis venue à toi vierge de cœur. Quand je suis sorti de cette profonde solitude, quand, pour la première fois, j'ai lissé mes cheveux en les ornant d'une couronne de fleurs d'amandier, quand j'ai complaisamment ajouté quelques nœuds de satin à ma robe blanche en songeant au monde que j'allais voir et que j'étais curieuse de voir, eh bien, Jules, cette innocente et modeste coquetterie a été faite pour toi. Car à mon entrée dans le monde, je t'ai vu, toi, le premier. Ta figure, je l'ai remarquée. Elle tranchait sur toutes les autres. Ta personne m'a plu. Ta voix et tes manières m'ont inspiré de favorables pressentiments. Et quand tu es venu, que tu m'as parlé la rougeur sur le front, que ta voix a tremblé, ce moment m'a donné des souvenirs dont je palpite encore en t'écrivant aujourd'hui que j'y songe pour la dernière fois. Notre amour a été d'abord la plus vive des sympathies. Mais il fut bientôt mutuellement deviné, puis aussitôt partagé, comme depuis nous en avons également ressenti les innombrables plaisirs. Dès lors, ma mère ne fut plus qu'en second dans mon cœur. Je le lui disais et elle souriait, l'adorable femme. Puis j'ai été à toi, tout à toi, voilà ma vie, toute ma vie, mon cher époux. Et voici ce qui me reste à te dire. Un soir, quelques jours avant sa mort, ma mère m'a révélé le secret de sa vie, non sans verser des larmes brûlantes. Je t'ai bien mieux aimé quand j'appris, avant le prêtre chargé d'absoudre ma mère, qu'il existait des passions condamnées par le monde et par l'Église. Mais certes, Dieu ne doit pas être sévère quand elles sont le péché d'âme aussi tendre que l'était celle de ma mère. Seulement cet ange ne pouvait se résoudre au repentir. Elle aimait bien Jules. Elle était tout amour. Aussi ai-je prié tous les jours pour elle sans la juger. Alors je connus la cause de sa vive tendresse maternelle. Alors je sus qu'il y avait dans Paris un homme de qui j'étais toute la vie, tout l'amour, que ta fortune était son ouvrage et qu'il t'aimait, qu'il était exilé de la société, qu'il portait un nom flétri, qu'il en était plus malheureux pour moi, pour nous, que pour lui-même. Ma mère était toute sa consolation et ma mère mourait. Je promis de la remplacer. Dans toute l'ardeur d'une âme dont rien n'avait faussé les sentiments, je ne vis que le bonheur d'adoucir l'amertume qui chagrinait les derniers moments de ma mère, et je m'engageais donc à continuer cette œuvre de charité secrète, la charité du cœur. La première fois que j'aperçus mon père, ce fut auprès du lit où ma mère venait d'expirer. Quand il releva ses yeux pleins de larmes, ce fut pour retrouver en moi toutes ses espérances mortes. J'avais juré non pas de mentir, mais de garder le silence. Et ce silence, quelle femme l'aurait rompu? Là est ma faute, Jules. Une faute expiée par la mort. J'ai douté de toi. Mais la crainte est si naturelle à la femme, et surtout à la femme qui sait tout ce qu'elle peut perdre. J'ai tremblé pour mon amour. Le secret de mon père me parut être la mort de mon bonheur. Et plus j'aimais, plus j'avais peur. Je n'osais avouer ce sentiment à mon père, c'eût été le blessé, et dans sa situation, toute blessure était vive. Mais lui, sans me le dire, il partageait mes craintes. Ce cœur tout paternel tremblait pour mon bonheur autant que je tremblais moi-même et n'osait parler, obéissant à la même délicatesse qui me rendait muette. Oui, Jules, j'ai cru que tu pourrais un jour ne plus aimer la fille de Gratien autant que tu aimais ta Clémence. Sans cette profonde terreur, t'aurais-je caché quelque chose à toi qui étais même tout entier dans ce repli de mon cœur? Le jour où cet odieux, ce malheureux officier t'a parlé, j'ai été obligé de mentir. Ce jour, j'ai pour la seconde fois de ma vie connu la douleur. Et cette douleur a été croissante jusqu'en ce moment où je t'entretiens pour la dernière fois. Qu'importe maintenant la situation de mon père, tu sais tout? J'aurais, à l'aide de mon amour, vaincu la maladie, supporté toutes les souffrances. Mais je ne saurais étouffer la voix du doute. N'est-il pas possible que mon origine altère la pureté de ton amour, l'affaiblisse, le diminue? Cette crainte, rien ne peut la détruire en moi. Telle est, Jules, la cause de ma mort. Je ne saurais vivre en redoutant un mot, un regard. Un mot que tu ne diras peut-être jamais, un regard qui ne t'échappera point. Mais que veux-tu? Je les crains. Je meurs aimé, voilà ma consolation. J'ai su que depuis 4 ans, mon père et ses amis ont presque remué le monde pour mentir au monde. Afin de me donner un état, ils ont acheté un mort, une réputation, une fortune, tout cela pour faire revivre un vivant, tout cela pour toi, pour nous. Nous ne devions rien en savoir. Eh bien, ma mort épargnera sans doute ce mensonge à mon père. Il mourra de ma mort. Adieu donc, Jules. Mon cœur est ici tout entier. T'exprimer mon amour dans l'innocence de sa terreur, n'est-ce pas te laisser toute mon âme? Je n'aurais pas eu la force de te parler, j'ai eu celle de t'écrire. Je viens de confesser à Dieu les fautes de ma vie. J'ai bien promis de ne plus m'occuper que du roi des cieux, mais je n'ai pu résister au plaisir de me confesser aussi à celui qui pour moi est tout sur la terre. Hélas, qui ne me le pardonnerait, ce dernier soupir entre la vie qui fut et la vie qui va être? Adieu donc, mon Jules bien-aimé, je vais à Dieu, près de qui l'amour est toujours son nuage, près de qui tu viendras un jour. Là, sous son trône, réunis à jamais, nous pourrons nous aimer pendant des siècles. Cet espoir peut seul me consoler. Si je suis digne d'être là par avance, de là je te suivrai dans ta vie, mon âme t'accompagnera, t'enveloppera, car tu resteras encore ici-bas, toi. Mène donc une vie sainte pour venir sûrement près de moi. Tu peux faire tant de bien sur cette terre. N'est-ce pas une mission angélique pour un être souffrant que de répandre la joie autour de lui, de donner ce qu'il n'a pas? Dieu ne trompe pas. N'adore plus que lui, je le veux. Cultive le bien dans tous ceux qui souffrent. Soulage les membres endoloris de son Église. Adieu, chère âme, que j'ai remplie. Je te connais. Tu n'aimeras pas 2 fois. Je vais donc expirer heureuse par la pensée qui rend toutes les femmes heureuses. Oui, ma tombe sera ton cœur. Après cette enfance que je t'ai contée, ma vie ne s'est-elle pas écoulée dans ton cœur? Morte, tu ne m'en chasseras jamais. Je suis fier de cette vie unique. Tu ne m'auras connue que dans la fleur de la jeunesse. Je te laisse des regrets sans des enchantements. Jules, c'est une mort bienheureuse. Toi qui m'as si bien comprise, permets-moi de te recommander, chose superflue sans doute, l'accomplissement d'une fantaisie de femme, le vœu d'une jalousie dont nous sommes l'objet. Je te prie de brûler tout ce qui nous aura appartenu, de détruire notre chambre, d'anéantir tout ce qui peut être un souvenir de notre amour. Encore une fois, adieu. Le dernier adieu, plein d'amour, comme le sera ma dernière pensée et mon dernier souffle. Voilà, nous avons donc terminé cette lecture du court roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants. il reste quelques pages que vous pouvez vous-même lire. Cette émission est donc terminée pour ce soir et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau livre, une nouvelle lecture. Cette émission a donc été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.